pourvu que nous puissions vivre une heure de grâce avec toi. Et que maintenant, les Écritures s'ouvrent pour nous et que par ton esprit, tout ce que tu veux nous communiquer puisse nous pénétrer, se fixer dans notre sensibilité afin que dans la vie quotidienne, nous puissions nous souvenir par le Saint-Esprit devenu notre mémoire de tes pensées, pour que nos pensées correspondent aux tiennes, pour que nos paroles soient le reflet des tiennes, et que pour toutes nos actions soient celles que tes mains ont accomplies pour la gloire de ton Père, toi qui veux faire de nous ses enfants d'adoption, ceux qu'un jour, devant ton Père, tu n'auras pas honte de les appeler tes frères. Donne-nous d'être déjà conscients que nous sommes les membres de la famille de Dieu. Amen. Alors, en ce samedi matin 4 octobre, nous faisons notre premier exposé véritable après l'introduction d'hier soir sur ce thème, vivre de la vie d'un autre. Mais nous garderons quand même toujours à notre esprit pendant toute cette journée le texte qu'il nous a donné ce matin, puisque c'est lui-même qui s'est adressé à nous. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Vous avez eu l'occasion donc de vous recueillir, de méditer devant ces quelques questions qui devaient orienter notre étude. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez pu trouver, ce serait trop long, ça remplirait au fond toute l'heure, et certainement que nous arriverions à beaucoup de répétitions. Mais nous reprenons cette question du numéro 1 au nous soulignons que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous demandons à quelle vie l'homme était-il appelé dans le dessein de Dieu. Et comme nos propres idées, nos propres pensées n'ont pas beaucoup de valeur, c'est dans l'Écriture sainte que nous allons trouver les réponses. Parce que nous croyons que toute la parole que nous avons dans la Bible est véritablement inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour nous former, nous instruire, nous corriger même dans nos erreurs et nous rendre parfaits et accomplis pour toute bonne œuvre. Parce que Dieu attend de vous que vous puissiez accomplir, non pas des œuvres pour lui, des œuvres qui vous plairaient de faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons désirs dans vos cœurs, mais s'il vous a créé, c'est pour que vous accomplissiez non pas des œuvres personnelles, mais ses œuvres à lui. Les bonnes œuvres et qu'il a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez, comme il l'est dit dans le chapitre 2 des Éphésiens. Vous êtes son ouvrage, et c'est cela que vous devez bien comprendre. Vous êtes individuellement l'ouvrage de Dieu, et Dieu avait un dessein pour vous. Il vous a créé dans un but. Votre vie, elle a un sens. Et nous espérons que vous allez plus que jamais découvrir le sens de votre vie, la raison de votre vie, des motivations valables pour traverser ce monde où il y a tant d'épreuves, tant de difficultés, tant de luttes, tant d'occasions d'être découragé. Nous voulons croire que vous allez découvrir pourquoi Dieu vous a créé. Il vous a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Non pas que vous devez imaginer vous-même, en pensant, mais elles sont bonnes, certainement que c'est à la gloire de Dieu. Non, mais Dieu vous a créé. Vous êtes son propre ouvrage et il vous a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Il faut donc peut-être oublier tout un enseignement qu'on a reçu au sujet des œuvres que nous devrions faire, des initiatives que nous devrions prendre. Un chrétien, c'est un homme qui doit avoir de l'initiative, manifester sa personnalité. Il y a tant de choses qui ont été dites et qui sont erronées et qui vous conduisent dans le découragement et finalement dans la dépression nerveuse. Et nous aimerions mieux mourir que de contribuer à ce que cette sainte semaine biblique nous amène à une dépression nerveuse. C'est vrai, hein? Vous riez, mais c'est vrai ce que je vous dis là. Et je sens profondément ma responsabilité à votre égard, parce que je vous aime, et je ne voudrais pas vous conduire dans un trou, mais vous conduire sur un chemin où le Seigneur marche avec vous, et mieux encore, où vous êtes en lui, et c'est lui qui marche. Alors vous êtes en lui dans le repos. Vous êtes en lui dans la paix. Vous êtes en lui dans la joie. Et s'il y a des ennemis sur votre chemin, qui est-ce qui les rencontre? C'est lui. Qui est-ce qui répond? C'est lui. Il a seulement besoin de vos organes. Il a seulement besoin de vos corps. Comme il a eu besoin un jour, quand il s'est manifesté au monde, il a eu besoin d'un corps. Alors vous êtes tous comme des maris devant l'ange de Dieu et qui attend votre réponse. Est-ce que vous êtes d'accord de servir au dessein éternel de Dieu? Il ne va pas vous forcer. Personne ne sera forcé. Dieu ne viole pas la volonté de sa créature. Il vous propose, dans un amour infini, à vous de le croire et de vous laisser faire par lui. Parce que si vous ne voulez pas vous laisser faire par lui, et que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, ou que d'autres, des autres créatures peuvent faire quelque chose pour vous, ce sera la déception. Et le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons des déçus, et des gens à la longue et triste figure. Je risque d'en faire une aussi, moi, parce que il y a une jambe de chair qui s'en va. Il faudra que je change la chaise. Vous voyez? Peu importe, non, mais ça ira, je me tiens pris tranquille. Alors, vous avez, je pense, consulté l'Écriture, puisque nous avons dit que c'est dans l'Écriture que nous voulons trouver réellement notre enseignement, puisque nous désirons grandir, et il est dit que c'est l'Écriture qui va, par le Saint-Esprit, qui nous l'applique, nous rendre accomplis et propres pour toute bonne œuvre, nous amener justement à cet état de nous faire quitter l'enfance spirituelle, avec nos éternelles crises, hein, les crises de l'enfant, on piétine, on tape du pied, on n'est pas d'accord. Et ben, Vous connaissez les enfants. Eh bien, nous voulons sortir de cette période d'enfance spirituelle pour devenir des hommes faits. Et vous savez, plus un croyant est un homme fait, plus il est humble et plus il est doux. Il ne se glorifie pas et il ne dit pas qu'il est un homme fait, mais on le voit. Il ne prétend pas être parvenu à la perfection, mais ce que l'on voit chez lui, c'est qu'il a un but et qu'il court vers ce but et qu'il renonce à tout ce qui pourrait l'entraver pour arriver à ce but. Même des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais on les laisse de côté parce qu'on ne veut pas être retardé. On veut parvenir au but. C'est ce que l'apôtre Paul nous a montré. Alors, à cette question, quel était le dessein de Dieu pour l'homme? Vous avez vu dans la Genèse, au chapitre 1er, au verset 26 à 31 en particulier, qu'au moment de la création, il y a comme un entretien dans la divinité. On entend Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Alors on se dit, bien oui, mais alors, puisqu'on nous a dit que Dieu était esprit, quelle image peut-on se faire de Dieu? Dieu est esprit, mais moi je ne vois pas un esprit, on ne le voit pas, et pourtant il dit, faisons l'homme à notre image. Et pourquoi ce pluriel? Eh bien, on y a vu déjà une première mention de la Trinité, puisque Dieu, tout en étant unique, se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est comme s'il y avait un entretien dans la Trinité au sujet de la création de l'homme. Et quant à cette image, nous nous posons la question, mais où pouvons-nous trouver une image, l'image de Dieu? Alors, sans sortir de la Bible, on cherche, c'est pourquoi il faut lire la Bible, il ne faut pas qu'elle soit seulement cette parole entre les couvertures du livre, mais il faut en être pénétré. Alors le Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? C'est son Fils unique. Lisez Colossiens chapitre 1er, verset 15e, il est dit qu'il est l'image, lui. Il est l'image de Dieu. Prenez 2 Corinthiens 4, verset 4 aussi. Il est dit que, verset 4, que, j'irai plus verset 3. Si notre évangile, dit Paul, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, si on veut se faire une idée de ce qu'est l'image de Dieu, il nous faut connaître le Christ. Vous pouvez prendre aussi l'Épître aux Hébreux, mais je ne vais pas vous assassiner avec une foule de textes bibliques, mais dans le chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux, nous trouvons encore une fois que Dieu, ayant autrefois parlé au Père par les prophètes à la fin de ces temps, qui sont donc les derniers, nous a parlé par le Fils, et au verset 3, il est dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et je termine avec ces citations. au chapitre 14 de cet évangile de Jean que nous vous avons déjà cité, dans la nuit où il fut livré, Jésus, parlant à ses disciples, leur souligne qu'il va retourner vers qui ? Vers son Père. Je lui demande, mais quel est le chemin donc pour aller vers ce Père ? Il dit, mais je suis le chemin. La vérité est la vie. Alors, un des disciples lui dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus répondait, il dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je vis dans le Père, et le Père est en moi. Une unité donc merveilleuse. Donc, il n'existe pas de connaissance réelle et complète de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Si vous voulez connaître le Père, vous devez passer par Jésus-Christ. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le Père, vous passez par Jésus-Christ. En dehors du Christ, il n'y a pas de réelle et complète connaissance de Dieu. On se fait des idées, mais on n'a pas une révélation. Personne, encore un texte, dans Jean, hein? Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Donc, voilà à quelle image vous avez été créé. Et à sa ressemblance, je n'insisterai pas sur le sens profond de tous ces mots. Donc, le premier homme qui a paru dans la création au sommet des œuvres de Dieu était créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, manifesté en son Fils unique. Mais notez bien une chose. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé en lui donnant la vie éternelle. Il était une créature parfaite, sans péché, mais il n'avait pas en lui la vie non créée. La vie non créée, il n'y a que Dieu qui la possède. Lui est la vie non créée. Lui n'a ni commencement ni fin. De sorte que Adam n'avait pas la vie éternelle quand il a été créé. Croyez le bien, comprenez le bien. Il était une créature et qui est devenue par le souffle de Dieu une âme vivante. Il a été façonné de la poussière de la terre. Dieu a mis en lui une respiration de vie et il est devenu une âme vivante. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Il était prédestiné à la vie éternelle. Il était prédestiné à la gloire éternelle. C'est le texte que vous avez certainement lu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 28e. Il est dit que Dieu nous a préconnus, et ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de qui ? De son Fils. Voilà le dessein éternel de Dieu. Et ce dessein, il l'avait établi avant la fondation du monde. Et ce texte, vous l'avez trouvé dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, où l'apôtre Paul s'écrit, « Béni soit, verset 3, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, où ? Dans les lieux célestes, en Christ. » Donc c'est bien là qu'il est, hein, le Christ, notre vie. « En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Donc, ce dessein de Dieu de vous créer à l'image de son Fils n'a pas été pris à la légère. Avant la fondation du monde, avant la création du premier atome de poussière, vous aviez une existence dans la pensée de Dieu. Moi, je trouve ça renversant. Et ça nous pousse à l'adoration, à nous prosterner. Dieu est Dieu. Et il a eu cette pensée, il a eu cette idée dans l'éternité passée. Il a pensé créer un être au bonheur duquel il voulait travailler et qu'il prédestinait à être semblable à qui? À un ange? Non. À son Fils unique. À son Fils unique. Mais, évidemment, Adam n'était qu'une créature innocente, parfaite, mais créé à la ressemblance de Dieu, ayant donc une intelligence, ayant une volonté, et Dieu ne voulait pas que cet être soit contraint de le servir ou de l'adorer. Tous les animaux qu'il avait créés obéissent à des lois, toutes les œuvres de Dieu obéissent à des lois qu'on ne peut pas changer. Mais pour l'homme, le voulant à son image et à sa ressemblance, Dieu, en quelque sorte, si j'ose m'exprimer ainsi, court un risque de créer un être libre, un être qui pourrait lui dire non. Hein? Et ça, c'était un risque. Mais Dieu a pris ce risque que l'homme lui dise non. Mais dans ce jardin où il le place, dans les conditions les plus favorables, vous y trouvez la possibilité pour l'homme de s'approcher d'un certain arbre, vous connaissez votre histoire, hein, qui s'appelle l'arbre de la vie. Mais il y en avait aussi un autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où l'homme créé par Dieu aurait-il dû aller se nourrir? À l'âme de vie. Et c'est comme ça qu'il aurait eu ce qu'il n'avait pas à la création, il aurait eu la vie éternelle. Mais s'il allait choisir le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il faisait vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tu n'en mangeras pas, au cas où tu en mangeras, tu mourra certainement. Donc Dieu ne voulait pas, n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Il l'avait créé en lui donnant la possibilité de vivre et de vivre d'une vie éternelle. Seulement, quand l'homme a eu désobéi, l'homme a vu le chemin de l'arbre de vie lui être fermé. Et pour quelle raison? Parce que ça aurait été la pire des conditions de vivre éternellement quand on est pécheur. Donc, là, il y a eu un accident. Ça n'a pas changé le plan de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons un jour semblables à l'image de son Fils. Mais ce chemin que nous connaissons, nous, où nous peinons, où nous luttons, où nous pleurons, ce n'était pas le chemin que Dieu voulait pour nous. Pour nous amener à l'image de son Fils, il y avait l'arbre de vie. Et en se nourrissant de l'arbre de vie, l'homme créé par Dieu serait graduellement monté jusqu'à cette perfection qui était la gloire de Dieu, et serait devenu semblable à l'image de son Fils, mais sans connaître la souffrance, la mort et les humiliations du sépulcre. Ce n'est pas Dieu qui voulait cela. Mais si l'homme, usant de sa liberté, prenait le mauvais chemin, malgré qu'il était placé dans les meilleures conditions, l'homme alors devenait absolument responsable. des conséquences du péché. Car c'est ainsi que le péché est entré dans le monde, il est entré par une désobéissance. Et le péché étant entré dans le monde, qu'est-ce qui en a suivi ? La souffrance et la mort. Mais ne rendez pas Dieu responsable de tout cela. Quoiqu'étant le Créateur, il a osé prendre la responsabilité de tout ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas vous qui réparez vos fautes. C'est qui ? C'est Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui était préconnu dès avant la fondation du monde. Comme si le risque que Dieu prenait en créant un être libre, il le couvrait déjà par le plan de la rédemption. Mais il ne faudrait pas croire que la vie humaine a commencé par la chute, ou que la vie humaine a commencé par le péché. La vie que Dieu voulait pour l'homme, elle était dans son cœur de toute éternité. Il avait ce dessein, et c'est ce dessein envers et contre tout qui s'accomplira. Mais la rédemption n'aurait pas été nécessaire si l'homme était resté dans la communion de Dieu, recevant tout de Dieu, il serait parvenu à la gloire de Dieu. Enfin, ce n'est pas ce chemin-là et qu'il a suivi. Et ses descendants, hélas, tous, c'est ce que vous constatez dans la deuxième question, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Créés à l'image de Dieu, ça c'était le premier homme, hein. Mais les descendants du premier homme, lisez le chapitre 5 de la Genèse, qui vous montre les descendants du premier homme. Adam est la créature de Dieu. Mais il a désobéi, il s'est soustrait au commandement de Dieu, voulant faire sa propre vie et ayant la prétention de parvenir, lui, à la gloire de Dieu, mais sans Dieu. Au fond, c'est là le péché de l'homme. L'homme veut devenir semblable à Dieu, mais sans Dieu. Tandis que nous ne pouvons devenir semblable à Dieu que dans la communion avec Dieu, que dans la relation avec Dieu, ce qu'on appelle la piété, qui est le rapport direct avec Dieu. Autrement, laissés à nous-mêmes comme créatures, nous ne sommes que chair, comme il l'est dit, et la chair, elle est faible. Vous en trouvez l'origine de cette chair faible dans le chapitre 6 de la Genèse, qui vous explique pourquoi l'homme est toujours en faillite. Oui, je crois que la jambe de ma chaise aussi est faible. Le diable n'est pas content. C'est quand on parle de chute. Mais j'avoue qu'elle était comme cela quand je me suis assis hier soir, hein, déjà. Mais pas aussi grave. Alors, où en étions-nous ? Vous suivez ? La chaise. La chair en elle-même. Ils ont compris la chaise. C'est vrai qu'elle était faible, vous l'avez vu. Mais au lieu D'un S, mettez-y un R et supprimez le E. Alors, c'est au chapitre 6 de la Genèse hein, que nous lisons cela, puisque nous nous laissons enseigner. Verset 3 du chapitre 6. L'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisqu'il n'est que chair. Il n'est que chair. Hein. Laissé à lui-même, l'homme n'est que chair. Et c'est Jésus qui, parlant de la chair, il dit que la chair est faible. Et lui-même l'a réalisé lorsqu'il a pris un corps de chair, même sans péché, la chair était faible. Même dans un corps sans péché, la chair est faible. C'est pourquoi il faut que nous ayons la vie éternelle. Une relation avec Dieu. Mais si vous ne vous l'avez pas, il ne vous faut pas vous attendre à des miracles avec votre chair. Elle est toujours bien intentionnée. Hein. L'esprit est prompt, mais vous avez de bonnes idées, vous voulez les réaliser, mais tout d'un coup, vous réalisez, vous n'en avez pas là, la force. Mais pour qu'on réalise cela, il faut des fois du temps. Puis on recommence, on croit toujours qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut y arriver avec notre volonté, avec nos décisions, notre renouvellement. Et puis c'est toujours la même histoire. Laissez-vous enseigner par les Écritures. Mais souvenez-vous du plan de Dieu. Et comprenez bien, une fois pour toutes, que le péché dans sa racine, ce n'est pas une action d'abord, mais c'est une attitude. Au fond, l'homme n'a pas cru la parole de Dieu. Et avec la femme, mais j'ajoute tout de suite que le péché, si c'est Ève qui a été tentée, la première, eh bien, le péché est attribué à qui? Non pas à la femme. Elle a été séduite, la femme, c'est vrai. Et c'est elle qui était la première séduite. Mais quant au péché, la responsabilité du péché, elle est toujours mise sur qui? Sur l'homme. C'est sur l'homme. Comme vous l'avez dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, un texte que je vous ai cité aussi pour une autre question, qui est certainement la deuxième question, aux Romains chapitre 5. Vous avez cette parole que je viens de vous citer, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Tous ont péché. Et alors, je me souviens maintenant que j'étais dans le livre de la Genèse, quand ma chaise est devenue faible, et je voulais vous parler de la descendance d'Adam. Lui est créature de Dieu, mais les enfants d'Adam, donc, c'est sa progéniture. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans le chapitre 5 de la Genèse, verset 1? C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle et il les bénit. Et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. Hein. C'est plus à la ressemblance de Dieu. Hein. Mais c'est à sa ressemblance à lui. Et nous sommes tous les descendants de cette race. Nous sommes tous nés de cette race et nous portons l'image, donc, dans notre naissance physique, nous portons l'image du premier homme en chute. Non pas du premier homme tel qu'il avait été créé par Dieu, mais du premier homme qui a chuté. C'est cela que nous devons bien reconnaître. Donc, est-ce que vous vous êtes arrêté sur la deuxième question? Pouvez-vous trouver dans les descendants du premier homme quelqu'un ayant manifesté dans ce monde la vie à laquelle Dieu le destinait? Est-ce qu'il y a eu exception, selon vous? Je dis en dehors de Jésus. Vous pouvez prendre toutes les écritures et vous verrez qu'il n'y a pas eu une seule exception. Mais je vous ai convié à relire soit le psaume 14 ou au temps de David. Il est dit ceci, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions, il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble corrompus, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même. Pourtant, on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Le mal. Et on n'est pas capable de faire le bien. On a peut-être encore le désir de faire le bien. Mais c'est le mal qui domine. Nous avons donc perdu quoi? Nous qui avions été créés libres. En voulant devenir indépendants, ce qui n'était l'apanage d'aucune créature, puisqu'on est créé, on ne peut pas être indépendant, mais on était créé libre. Mais, voulant devenir indépendants, nous sortons donc de la dépendance de Dieu qui nous donnait tout. Nous avions tout en Dieu. Nous pouvions être bénis de toutes les bénédictions. Si je sortais de cette dépendance de Dieu, qu'est-ce qui m'arrivait? Je retombais sur moi-même, je n'étais plus que chair. C'est ça la chute au fond. L'homme n'est plus que chair. Et il est dit que, si vous lisez le chapitre 6 de la Genèse, que toutes les pensées du cœur de l'homme étaient méchanceté en tout temps. Sous quelle dépendance s'était-il mis en désobéissant à Dieu? Sous la dépendance de celui qu'il avait écoutez, et qu'avait-il écouté? La voix de Satan. La voix de l'ennemi qui est un menteur, nous dit Jésus, tel comment. Alors, au lieu d'être indépendant, il est devenu esclave de Satan. Esclave du diable. L'homme n'est plus réellement libre. Et c'est ce que vous devez bien comprendre. L'homme n'est plus réellement libre. Pour qu'il soit réellement libre, il faut que Dieu intervienne pour le libérer. Et par qui Dieu va-t-il libérer l'homme devenu esclave? Par son Fils, qui va nous racheter de cet esclavage. Nous sommes des esclaves. Mais nous pouvons être rachetés de cet esclavage avec quoi? De l'or, de l'argent? Non, avec le sang précieux du Christ. Le plan de la rédemption a été mis en action au temps convenable pour que nous soyons rachetés. Ceux que Dieu avait prédestinés à être semblables à son Fils, il est dit qu'il a dû les appeler. Si l'homme était resté avec Dieu, il n'y aurait pas eu besoin de l'appeler. On appelle quelqu'un seulement quand il est loin. Dieu l'a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il a dû les justifier. Si on était juste, on n'aurait pas besoin d'être justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais ça veut dire qu'on arrivera quand même au dessein éternel de Dieu. En finale, le dessein que Dieu avait pour l'homme sera accompli. La chute n'a pas détruit le plan initial de Dieu. Mais dans le plan initial de Dieu, la ligne, si je peux dire ainsi, était droite. mais il y a eu brisure à cause de la chute. Et il a fallu que quelqu'un descende au fond de cette brisure pour nous racheter, nous justifier et pour nous faire sortir de ce trou où nous étions tombés et nous faire marcher vers cette gloire éternelle. Comprenez-vous? C'est cela le dessein éternel de Dieu. Et c'est cela que nous devons bien comprendre.